Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Plus aucun migrant ne franchit désormais la frontière. La route des Balkans est fermée. La Slovénie ne laisse plus passer de réfugiés sans visa. Mesure adoptée également par la Croatie, la Serbie et la Macédoine. Même les Syriens et les Irakiens, les seuls à réussir à passer ces derniers jours, ne sont plus les bienvenus. Résultat, des dizaines de milliers de personnes se retrouvent piégées en Grèce. Beaucoup attendent à la frontière gréco-macédonienne dans des conditions très difficiles côté grec. Du côté de la Macédoine, dans le camp de la petite ville frontalière de Jevgelia, c'est beaucoup plus calme et organisé. Reportage de Charlotte Stievenard, quelques jours avant la fermeture des frontières.
On dirait un petit village de préfabriqués blancs. Le sol est recouvert d'un gravier clair pour éviter la boue. Vasco Borisovski du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés fait la visite.
Voilà le point d'entrée, là où les contrôles d'identité et de sécurité sont effectués. On leur fournit de la nourriture et de l'eau. Et ensuite, ils arrivent dans cet endroit où ils attendent que leur document d'enregistrement soit créé. Comme vous pouvez le voir, ces installations sont équipées avec de l'électricité, du chauffage, des couvertures, et leurs autres besoins sont couverts.
Une quinzaine d'organisations non gouvernementales s'activent dans le camp. Il permet d'accueillir un peu plus de 1000 personnes. Dans une grande tente blanche, des familles sont assises sur des bancs en bois. Parmi eux, Akadi Issa, un jeune homme aux lunettes carrées. Ce Syrien de 30 ans vient de Damas, en Syrie, où il étudiait le commerce et l'économie. Il a été agréablement surpris.
Ici, c'est bien. Les gens sont super. C'est aussi bien que dans l'île de Mytilène, qui était aussi un bon camp. Ici, c'est parce que les gens sont bien, très bien. Mais je pense que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens ici. Je pense que c'est ça la raison.
Il a passé 3 nuits dans le camp d'Idomeni de l'autre côté de la frontière. Construit pour 1500 personnes, 3000 à 4000 se trouvaient sur place à ce moment-là. Soulagé d'avoir pu passer, il prend sa pochette remplie de papiers et sort celui donné lors de son enregistrement par l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
Je vais traverser 4 pays. La Serbie, la Croatie, la Slovénie et l'Autriche. Voilà le tampon d'entrée et là, le tampon de sortie dans chaque pays. Quand je vais arriver en Allemagne, ils vont le prendre. Ils vont me demander si je veux demander l'asile ici. Je vais dire non, je vais aller en France.
Après une réunion entre les chefs de la police, les pays des Balkans se sont mis d'accord pour gérer ensemble le flux de réfugiés. La Grèce n'était pas invitée. Devant une grille, des officiers de la police originaires de plusieurs pays des Balkans contrôlent les papiers de Malas, un avocat syrien qui avait repéré quelques erreurs. Il explique qu'après plusieurs jours d'attente côté grec, c'est beaucoup plus rapide côté macédonien.
Ils ont vu ma carte d'identité. Je ne leur ai pas donné mon passeport car ma femme n'en a pas. Elle n'a que sa carte d'identité. Ensuite, ils nous ont fouillés et puis nous avons traversé jusqu'ici. Enfin, nous leur avons donné le document donné en Grèce et la carte d'identité. Ça a duré 1 heure.
Vous voyagez avec votre femme ? Vous avez des enfants aussi ?
Non, maintenant c'est ma lune de miel. Je me suis marié il y a tout juste 1 mois. J'espérais une meilleure lune de miel, mais bon.
Malas et son épouse partiront pour la frontière serbo-macédonienne en train, directement du camp où un arrêt a été spécialement créé. Kemal Shkriel a fondé une petite organisation non gouvernementale appelée Noun. Il raconte comment ça se passait avant la création du camp en juin.
Les migrants marchaient ou voyageaient à vélo. C'est plus tard que le ministère du Travail les a autorisés à utiliser les transports publics, comme les trains, les taxis, les bus. Nous étions tout le temps à la gare avant que ce camp soit construit. Il n'y avait qu'une tente qui accueillait jusqu'à 1 millier de réfugiés parfois.
Des préfabriqués sont ajoutés régulièrement, mais là où il y a le plus de changements, c'est à la frontière. Si les réfugiés sont beaucoup moins nombreux, c'est aussi parce que les règles de passage à la frontière sont de plus en plus strictes, explique Kemal Shkriel. Désormais, le formulaire donné lors de l'enregistrement par la police sur les îles grecques ne suffit plus.
Ils vérifient maintenant les cartes d'identité, les passeports, etc. Comment un réfugié peut-il réfléchir à prendre son passeport quand des bombes lui tombent sur la tête? Comment ils peuvent penser à ça? C'est ridicule.
Car dans une même famille, tout le monde n'a pas les mêmes papiers. Certains sont donc renvoyés en Grèce sans leurs proches. Kemal Shkriel ironise. Pour lui, le seul endroit où les Grecs et les Macédoniens s'entendent à peu près pour coopérer, c'est à la frontière.
Il est difficile de savoir ce que vont devenir tous ces réfugiés. Aujourd'hui, l'Allemagne et la Grèce dénoncent la fermeture unilatérale de la route des Balkans. De la libre circulation et des voies migratoires, on en parle tout de suite avec Laurent Mossu en ligne de Genève. Laurent, alors que la Grande-Bretagne envisage de sortir de l'Union européenne, la Suisse, elle, refuse d'y entrer. Le Parlement suisse a décidé cette semaine, et à une très large majorité, de retirer la demande d'adhésion présentée à Bruxelles, et c'était en 1992 déjà.
En tournant carrément le dos à l'Union, en claquant une porte qui restait entrebâillée, le Parlement a fait un geste politique à double usage. D'abord, vis-à-vis de Bruxelles, bien entendu, en marquant ses distances, mais aussi à usage interne. Il veut ainsi couper l'herbe sous les pieds de la droite nationaliste dont la lutte contre l'Europe sert d'étendard. L'attrait que revêtait l'Union voici 25 ans s'est estompé. Et ce n'est pas l'image que donne aujourd'hui cette Europe déchirée qui peut le raviver. Les relations entre Berne et Bruxelles sont complexes et difficiles. En fait, la Suisse veut rester en dehors du club tout en bénéficiant des avantages au plan économique, commercial, culturel et autres que procurerait une adhésion de plein droit. Dès lors, la Suisse a négocié une multitude d'accords bilatéraux spécifiques portant sur le transport, l'éducation, la recherche, le commerce, l'agriculture et j'en passe, et par exemple a adhéré aux accords de Schengen sur la libre circulation.
Parlons justement de libre circulation. C'est un dossier explosif, hein, notamment après le vote des citoyens suisses en février 2014 qui voulaient mettre un terme à l'immigration de masse. Le scrutin a passablement tendu les relations entre la Suisse, la Commission de Bruxelles et les pays membres.
Oui, Bruxelles s'est fâchée tout rouge, refusant tout net cette atteinte portée à la libre circulation. Et voilà le gouvernement helvétique pris entre deux exigences. Celle du pays souverain, soucieux de freiner l'arrivée des étrangers, et celle des Européens, refusant tout encadrement unilatéral. Le torchon brûle depuis, alors que Berne envisage la mise en œuvre d'une mesure de sauvegarde permettant de tenir compte des besoins de l'économie, de s'adapter au fil des jours. Cette solution n'a pas reçu l'agrément de Bruxelles et la Suisse, qui doit constitutionnellement se plier au choix du peuple avant 2017 et mettre en musique sa décision, ne sait trop sur quel pied danser. Dans certains cercles politiques, on imagine qu'une nouvelle consultation populaire puisse être organisée avec l'espoir que les citoyens se déjugeront et prendront le contre-pied de leur premier vote. Mais ce n'est pas acquis.
Laurent Mossu, notre correspondant en Suisse.
2291991 Un giorno come tanti ma non certo per qualcuno Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato Una gabbia sta facendo reprimendo Attento, ascolta, dico...
Les centres sociaux autogérés ne sont plus en odeur de sainteté à Rome. Depuis que c'est le préfet Tronca qui gère la ville, la mairie tente de s'en débarrasser. Elle a même lancé un avis d'expulsion de l'atelier ESC, lieu où s'expérimente la démocratie radicale, le mutualisme et la solidarité. Une pétition signée par des dizaines d'universitaires, de représentants du monde culturel européen, demande à la mairie de revenir sur cette décision, car ces lieux développent et organisent chaque jour le welfare saccagé par les politiques d'austérité. Reportage à l'esque de Mathilde Auvillain.
Au cœur du quartier étudiant de San Lorenzo à Rome, l'atelier autogéré ESC est installé dans un hangar désaffecté. Pour le trouver, il faut se laisser guider par les fresques murales et par le brouhaha d'une assemblée en cours. Dans les centres sociaux autogérés, on ne sait jamais trop sur quel événement on va tomber. îlots culturels informels, espaces sociaux alternatifs, ce ne sont pas de simples squats. Ces espaces autogérés, au cœur des villes italiennes, se sont imposés comme de vraies institutions. Francesco Brancaccio est activiste de l'atelier autogériesque.
Ici à Esc, les migrants apprennent l'italien gratuitement. Les travailleurs précaires ou indépendants peuvent recevoir gratuitement aussi une assistance légale. Nous avons également une université métropolitaine libre à laquelle participent des figures de la pensée radicale européenne. Ce n'est pas simplement une école pour tous.
À l'atelier Esc, le soir, les discussions entamées la journée laissent la place à d'autres forums ou encore à des concerts d'artistes indépendants. Esc accueille aussi chaque année un festival des éditeurs indépendants avec toujours le même esprit. 11 ans après sa fondation, Serena était l'une des premières occupantes du centre social.
Ici, c'est le quartier de San Lorenzo à Rome, un quartier proche de l'université qui est très exposé au processus de gentrification et d'exploitation commerciale autour des étudiants, mais aussi une conversion commerciale du quartier qui a grignoté, érodé l'espace public pour la socialisation, la consommation culturelle. L'idée d'ESC, en 2005, était d'ouvrir un espace de socialisation et d'organisation de la présence étudiante dans le quartier.
Mais à Rome, cette alternative à la culture de masse est en passe de disparaître. Esc, Angelo Mai, La Torre, Corto Circuito, la plupart des centres sociaux de la ville éternelle viennent de recevoir un avis d'expulsion. Faute de pouvoir délivrer un titre de propriété ou un bail, les occupants sont priés de quitter les lieux. Et c'est l'expérience même des espaces occupés et autogérés qui est menacée.
Non è un feticcio.
Le fait d'être en état d'occupation n'est pas accessoire. C'est toujours le premier pas pour la création d'un centre social autogéré. Pourquoi ? C'est une réponse à l'indisponibilité toujours plus grande d'espaces publics et d'espaces communs, d'espaces à usage commun dans la ville de Rome et pas seulement. Dans la période historique que nous traversons, celle de la crise économique, il y a une véritable attaque contre l'espace démocratique et l'espace public en particulier.
Democratico e allo spazio pubblico.
Pour les fondateurs de l'atelier ESC, cette attaque méthodique menée contre les centres sociaux, contre ces lieux où s'expérimentent chaque jour la démocratie radicale, le mutualisme et la solidarité, n'est autre qu'un des effets des politiques néolibérales qui gagnent du terrain en Europe du Sud. Francesco Brancaccio.
Ils veulent en finir avec l'anomalie de l'autogestion dans la ville, mais Rome est la capitale de l'autogestion. Il y a des dizaines et des dizaines d'expériences similaires, des salles de sport populaires ou encore des occupations habitatives. Ils veulent en finir avec cette anomalie parce qu'elle porte en elle une très forte pulsion de liberté et d'autonomie. Nous croyons que le pouvoir financier, le capital, est en train de se réorganiser en mettant la main sur le patrimoine public des villes.
Patrimonio pubblico delle città.
Et à Rome, la dégradation, voire la pénurie de services publics est sous les yeux de tous. Manque de crèches, transport public au bord de la banqueroute, crise du logement. Les ateliers comme ESC offrent une plateforme de parole, de réflexion pour les citoyens en mal d'organisation sociale. À la dernière assemblée, la salle était comble. Francesco Brancaccio.
Roma.
C'est Rome qui doit se défendre, pas les centres sociaux. Rome doit se défendre de ce pouvoir néolibéral, technocratique. Rome s'est appauvrie à cause de l'austérité. Rome est vraiment une ville au bord de la faillite. En ce moment, à Rome, il n'y a pas de gouvernement démocratiquement élu. La ville est administrée par un préfet envoyé par le gouvernement central. Il est donc impératif de relancer une grande discussion et de répondre à ces attaques avec un surplus de démocratie radicale.
Esc et plusieurs autres centres sociaux autogérés de la capitale appellent à manifester ensemble contre les expulsions le 19 mars prochain sous un seul slogan : Rome n'est pas à vendre.
Şuradan alışveriş yapıyorsunuz, şurada eğlence mekanına gidiyorsunuz. Hani adamlar kesin inanmışlar ya bu işe.
C'est un documentaire qui revient sur l'un des plus grands scandales judiciaires allemands de ces dernières années. Le coiffeur de la Kopfstrasse donne la parole aux victimes de l'attentat à la bombe de Cologne en 2004. celui qui avait visé la communauté turque, bilan une vingtaine de blessés. Des blessés qui vont connaître un véritable calvaire lors de l'enquête. Immédiatement, la police ne se focalise que sur la piste turque. Mais 10 ans plus tard, tout laisse à penser que l'attentat en fait a été commis par des terroristes d'extrême droite. Julien Michaussi nous appelle de Berlin.
Plusieurs kilos de poudre noire et des centaines de clous cachés dans une valise déposée en pleine rue derrière un vélo garé devant le salon de coiffure des deux frères Öcalan et Hasan Yildirim. C'était le 9 juin 2004 à Mülheim, un quartier commerçant qui accueille une importante communauté turque. L'explosion fait 22 blessés, dont 4 graves. Très vite, les enquêteurs en ont la certitude. En cette belle après-midi de semaine, le but était de faire le plus de victimes possible. Le salon de coiffure est entièrement détruit et la police ne retient qu'une seule piste. Les auteurs ne peuvent venir que de la Kolbstrasse. Les enquêteurs n'en démordront pas, jusqu'à l'absurde. Un double traumatisme, comme l'expriment les mots justes de cette victime propriétaire d'une boutique de mariage qui témoigne dans le film.
Il y a eu 2 bombes. Celle avec les clous qui nous a touchés de plein fouet et l'autre, celle de l'état de droit qui n'a pas fonctionné. Et c'est celle-ci qui a été la plus grave.
Die größere Bombe.
10 ans après l'attentat, le réalisateur Andreas Maus démonte avec minutie le véritable harcèlement subi par les victimes de la Kolbstrasse, forcément coupable aux yeux de la police, à l'image d'Abdullah Öcalan, habitant de Mülheim et blessé par l'explosion. En raison de ses épaules larges et de ses petits boulots dans différents cafés, il est identifié comme videur par les enquêteurs et donc forcément suspect. Vengeance, fraude à l'assurance, crime organisé, infidélité, la police lance des accusations à tout va, multiplie les interrogatoires des familles des victimes pendant que de fausses informations circulent dans la presse. Des années durant, jamais les autorités n'auront exploré la piste de l'extrême droite. Sur un rythme lent qui mélange témoignages et acteurs, qui rejoue dans un décor minimaliste les interrogatoires dénués de toute humanité, ce documentaire étale avec empathie le calvaire subi par les femmes et les hommes de la Kolbstrasse. Des victimes qui attendent toujours la vérité, l'attentat à la bombe est aujourd'hui l'une des nombreuses pièces du procès de la cellule néo-nazie de la NSU, responsable de l'assassinat de 9 immigrés entre 2000 et 2007.
Voilà une décision qui fleure bon la social-démocratie scandinave des années 70. En Estonie, le ministère de la Culture a lancé un nouveau programme, un salaire pour les écrivains et autres artistes. 10 heureux élus vont en bénéficier pendant 3 ans. Le but est qu'ils puissent se consacrer à leur activité, contribuer ainsi au développement de la culture en Estonie. Marielle Pituro.
Le rendez-vous avec Indrek Koff est pris au café Pegasus. Le traducteur des œuvres de Welbeck en estonien n'a certainement pas choisi cet endroit au hasard. Ce lieu, aujourd'hui branché, où l'on déguste des soupes à l'artichaut et au saumon fumé, était autrefois le café de l'Union des écrivains. Depuis le mois de janvier, pour 3 années consécutives, Indrek Koff recevra 800 euros par mois, le salaire moyen estonien. Rien que pour 2016, il a prévu de publier 2 albums jeunesse, un recueil de poésie et la traduction de Limonov d'Emmanuel Carrère et de 2 autres livres. Un programme plutôt chargé pour ce père de 4 enfants, mais malgré tout, un soulagement puisque pendant 3 ans, il percevra un revenu fixe, assuré et surtout bénéficiera de la protection sociale. Récemment promu chevalier des arts et des lettres par la France, Indrek Koff a hésité jusqu'à la dernière minute pour envoyer sa demande. Mais la nécessité presque l'a finalement emporté sur la fausse modestie. L'afflux des candidatures, plus de 120, témoigne de la précarité des artistes et des auteurs en Estonie. Les travailleurs indépendants peinent à atteindre un revenu nécessaire pour arriver à payer leurs cotisations sociales et les pressions de l'Union des écrivains n'aboutissent pas. Malgré un certain prestige de l'écrivain, plusieurs festivals littéraires et une tradition de lecture héritée de la culture protestante, le tirage moyen d'un roman est de 800 exemplaires. L'idée de ce salaire créé par le ministère de la Culture a évidemment été critiquée, mais Indrek Koff n'est pas d'accord. Il n'affirme n'avoir reçu aucune consigne. Et puis, la culture ne peut être soumise aux lois du marché. La conversation se referme sur une tasse d'expresso et l'addition présentée entre les pages d'un livre. J'avais la nostalgie de ma vocation, affirme Indrek Koff en guise de conclusion.
Accent, c'est déjà fini. Jusqu'à demain, la réalisation Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver en attendant sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans quelques instants, les infos.
L'épopée des musiques noires. Le périple